VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du mardi 28 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Crise politique en Somalie, la tension monte à Mogadiscio. Des militaires lourdement armés se sont déployés mardi dans des secteurs stratégiques de la capitale. La Russie et les États-Unis tiennent des pourparlers le 10 janvier sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. En RDC, des villes paralysées par une grève générale pour s'opposer à un projet de déploiement de policiers rwandais. Covid, l'OMS prévoit un grand nombre d'hospitalisations, même si Omicron s'avérait moins dangereux. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Des militaires lourdement armés se sont déployés dans des secteurs stratégiques de Mogadiscio aujourd'hui, alors que la Somalie s'enfonce dans une nouvelle crise politique qui suscite l'inquiétude de ses alliés occidentaux. Les détails avec Jacques Aristide.
Des soldats loyaux, Premier ministre Mohamed Hussein Roblé, ont pris position aux alentours du palais présidentiel au lendemain de l'annonce de sa destitution par le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Les tensions entre les deux hommes sont récurrentes, mais la nouvelle escalade fait craindre pour la stabilité de ce pays fragile de la Corne de l'Afrique. D'après des habitants, ces soldats ne sont pas loin des principaux checkpoints entourant le palais présidentiel. Ils sont équipés de mitrailleuses lourdes et de lance-roquettes, ajoute-t-il. Des hommes politiques et chefs traditionnels discutent avec les deux camps pour tenter de désamorcer la crise. Les efforts sont toujours en cours, indique un responsable au sein du bureau présidentiel. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne notamment expriment leur profonde inquiétude. La section Afrique du département d'État américain affirme que Washington est prêt à intervenir contre ceux qui font obstruction sur le chemin de la paix en Somalie. La tentative de suspension de Mohamed Roblé est inquiétante et nous soutenons ses efforts en faveur d'élections rapides et crédibles, ajoute sur Twitter le département d'État américain en appelant toutes les parties à éviter l'escalade dans leurs actions et dans leurs déclarations.
La Cour suprême de Gambie a rejeté mardi le recours du candidat malheureux à la présidentielle de début décembre, Ousseynou Darbo, qui dénonçait des irrégularités, validant ainsi la réélection du chef de l'État sortant, Adama Barrow. Ce dernier a remporté la présidentielle du 4 décembre avec environ 53% des voix, contre environ 27% pour son principal adversaire, Ousseynou Darbo, selon la commission électorale. Monsieur Darbo avait, avant même la proclamation des résultats, exprimé avec deux autres candidats son intention de les contester, dénonçant des irrégularités. Sept militants du parti du principal opposant camerounais Maurice Kamto ont été condamnés à 7 ans de prison ferme, notamment pour rébellion et tentative d'insurrection. Parmi eux, Pascal Zambou, coordinateur national, et Mispa Awasum, présidente nationale des femmes du MRC, a déclaré mardi à l'AFP Christopher Ndong, secrétaire général du MRC. Lundi, 47 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, dont son porte-parole et son trésorier, avaient été condamnés pour les mêmes motifs à des peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme. Plusieurs militants avaient été arrêtés le 22 septembre 2020 alors que leur parti MRC et plusieurs autres projetaient des marches pacifiques contre le régime du président Paul Biya, au pouvoir depuis 39 ans. Plusieurs villes du sud Kivu dans l'est de la RDC sont paralysées ce mardi par une grève générale pour dénoncer et s'opposer à un projet de déploiement de policiers rwandais. Le point avec John Lyndon.
À l'appel des organisations de la société civile, Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, est une ville morte ce mardi. Les étalages de grands marchés sont restés vides depuis le matin, alors que les véhicules étaient rares sur les grandes artères, habituellement bloquées par des embouteillages. Les quelques enfants qui s'étaient rendus à l'école ont été renvoyés à la maison. Les bateaux n'ont pas quitté les différents ports de Bukavu pour la ville voisine de Goma, a affirmé Prudent Bama, secrétaire de l'association des armateurs du lac Kivu. Sur la route de l'aéroport, bloquée habituellement par des embouteillages, la circulation était très fluide. Mi-décembre, un mémorandum d'entente signé à Kigali par les chefs de police du Rwanda et de la RDC a désigné Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, comme un lieu de déploiement des policiers étrangers, notamment rwandais, pour une meilleure coopération transfrontalière afin de lutter contre divers trafics. Le 20 décembre, une manifestation contre la criminalité et contre la supposée présence des policiers rwandais à Goma, démentie par les autorités, a causé la mort de 4 personnes.
Au moins 31 travailleurs sont morts dans l'effondrement d'une mine d'or dans le centre du Soudan, a indiqué à l'AFP mardi Raled Darwi, directeur de la compagnie publique des ressources minières du Kordofan Ouest. 8 mineurs sont toujours portés disparus alors que cet incident n'a été découvert que le lendemain et que les recherches se poursuivent. Déjà, 4 mineurs sont morts dans des circonstances similaires en janvier 2021. Les Sud-Africains pourront se recueillir jeudi et vendredi devant la dépouille de Mgr Desmond Tutu, décédé à l'âge de 90 ans avant ses obsèques. Le lendemain, a annoncé sa fondation mardi dans un communiqué. L'archevêque, mort paisiblement dimanche, reposera dans la cathédrale Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse où ses obsèques auront ensuite lieu. Après une incinération privée, ses cendres y seront inhumées. L'archevêque a été très clair sur ses souhaits pour ses funérailles. Il ne voulait pas d'ostension ou de dépenses somptueuses. Il a demandé que le cercueil soit le moins cher possible et qu'il n'y ait pas d'autres fleurs dans la cathédrale qu'un seul bouquet de yeux offert par la famille, poursuit le communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et les États-Unis ont convenu d'organiser des pourparlers le 10 janvier à Genève sur l'Ukraine et la sécurité en Europe. Moscou exclut d'avance toute concession sur ses exigences. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis a indiqué que les négociations du 10 seraient suivies le 12 janvier d'un rendez-vous OTAN-Russie. Selon lui, le 13 janvier est prévu un round de discussions au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, fondée durant la guerre froide pour favoriser le dialogue Est-Ouest. En tête des revendications russes remises aux États-Unis et à l'OTAN, l'interdiction de toute expansion future de l'Alliance Atlantique et de toute coopération militaire dans ce que la Russie considère comme sa zone d'influence. Le Kremlin réclame l'engagement de l'OTAN à ne pas s'élargir en ex-URSS, notamment à l'Ukraine. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a brandi la menace de mesures militaires et techniques si ses revendications ne sont pas entendues. Ces pourparlers visent à permettre une désescalade des tensions autour de l'Ukraine. Kiev et ses alliés occidentaux accusent Moscou d'avoir massé des dizaines de milliers de militaires à sa frontière en prévision d'une possible invasion. Moscou dément toute velléité belliqueuse et se présente au contraire comme la cible de provocation des occidentaux qui soutiennent l'Ukraine.
L'OMS met en garde contre un relâchement face à Omicron. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce variant sera à l'origine d'un grand nombre d'hospitalisations de malades du COVID-19, même s'il provoque des symptômes moins graves. Le point avec Abdelrahman Dia.
Catherine Smallwood, une des responsables de l'OMS en Europe, a indiqué qu'une hausse rapide d'Omicron, même si elle se combinait avec une maladie légèrement moins grave, entraînera tout de même un grand nombre d'hospitalisations. Les experts ne savent pas si cette gravité apparemment moindre vient des caractéristiques du variant ou si elle est liée au fait qu'il frappe des populations déjà partiellement immunisées. Face à ces incertitudes, de nouvelles restrictions ont été adoptées dans plusieurs pays. La Chine a confiné mardi plusieurs dizaines de milliers de personnes supplémentaires au moment où le pays fait face à un nombre record de contaminations au Covid-19 à moins de 40 jours des JO d'hiver de Pékin. En Suède, un test négatif est obligatoire à partir de ce mardi pour tous les voyageurs à leur arrivée sur le territoire. En France, de nouvelles règles d'isolement pour les malades et leurs contacts seront fixées par le gouvernement d'ici la fin de la semaine. Et de nouvelles mesures restrictives sont aussi entrées en vigueur en Allemagne.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Linden.
La Tanzanie a signé mardi un contrat avec la société turque Yapı Merkezi pour la construction d'une voie ferrée à écartement standard de 368 km. Financée par des prêts, elle devrait coûter 1,9 milliard de dollars. Ce tronçon fait partie d'une ligne de 1219 km que la Tanzanie est en train de construire pour stimuler le commerce avec les pays voisins. Un tribunal sud-africain a prononcé mardi l'interdiction pour le géant des hydrocarbures Shell de mener une exploration sismique au large de la touristique Wild Coast dans l'est du pays. Une victoire pour les écologistes qui s'inquiétaient de ses répercussions sur la faune marine. La Tunisie a annoncé mardi un budget de 20 milliards de dollars en hausse de 2,3% par rapport au budget 2021 avec un déficit anticipé de 3,2 milliards de dollars ou 6,7% du produit intérieur brut. L'économie tunisienne a été durement touchée par la pandémie après des années de stagnation et le gouvernement s'attend à ce qu'elle croisse de 2,6% l'année prochaine. La Tunisie a entamé des discussions avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage, mais toute aide nécessitera probablement que le gouvernement accepte des réformes importantes et probablement impopulaires.
Et sans transition, nous passons à votre page sport. Élisée, on patine avec vous ce soir. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Après avoir obtenu la libération des internationaux africains évoluant en Europe, certains clubs continuent de faire pression sur leurs joueurs. Le Burkina Faso vient d'être la première victime. Nasser Djiga a donc décidé de ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Le jeune défenseur de 19 ans du club suisse FC Bâle n'honorera pas la convocation du sélectionneur Kamou Malo, ce qui ressemble à un refus. Les étalons logés dans la poule A avec le pays hôte, le Cameroun, l'Éthiopie et le Cap-Vert, se sont rendus hier à Abu Dhabi pour un stage de préparation sans leur défenseur. Reste à savoir si la fédération va saisir la FIFA ou la CAF. Aux Émirats Arabes Unis, le Burkina Faso jouera la Mauritanie en match de préparation. Les Morabitoun, eux, livreront deux autres rencontres amicales face à l'Ouganda et au Gabon. L'équipe entraînée par Didier Darussa Gomez s'est envolée ce mardi pour la capitale émiratie. La CAN, c'est bien du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Mais en attendant, la CAF qui gère le tournoi a procédé aujourd'hui au tirage au sort de la phase de poule de ces deux compétitions de clubs. En Ligue des champions, le double tenant du titre à la Ligue du Quai hérite du groupe A avec comme concurrent principal les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns qu'il a éliminé en quart de finale la saison passée. Les autres adversaires du groupe sont les deux clubs soudanais Al Hilal et El Merriek. Dans le groupe B, les Guinéens de Oraya seront aux prises avec les Marocains du Raja de Casablanca, les Algériens de Sétif et l'autre club sud-africain Amazulu. On aura dans la poule C trois clubs d'Afrique du Nord, à savoir l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et le CR Belouizdad qui feront face aux Botswanais de Galassi. Et puis, deux clubs angolais, Petro Atlético et Sagrada Esperanza, logés dans le groupe D, en découdront avec le Wydad de Casablanca et le Zamalek du Caire. On connaît aussi les quatre groupes de la Coupe CAF avec un groupe D particulièrement relevé qui opposera la Renaissance du Berkane, l'ASEC d'Abidjan, le FC Simba de la Tanzanie et les Nigériens de la Gendarmerie Nationale. Le TP Mazembe aussi n'aura pas la tâche facile dans la poule C où il affrontera Coton Sport du Garoua, Al Masri d'Égypte et l'AS Otoho du Congo. Pour le reste, dans le groupe A, on va assister à de belles oppositions entre les Égyptiens de Pyramide, les Tunisiens du CS Sfaxien, d'ailleurs club le plus titré de la compétition, les Zambiens de Zanaco et les Libyens d'Ali Tripoli. Et enfin, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Al Ittihad de la Libye et les Algériens de la JS Aoura composent la poule B. Les phases de poule de ces deux compétitions vont démarrer le week-end du 11 au 13 février 2022.
C'était les sports de Élisée Ongpatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les attaques menées par les groupes djihadistes ont augmenté durant l'année écoulée dans la région du Sahel, entraînant l'instabilité politique qui a vu un coup d'État au Mali, une tentative de coup d'État au Niger et des appels à la démission du président burkinabé. Le Burkina Faso, justement, a connu les attaques terroristes les plus meurtrières depuis le début des violences. Les analystes sont pessimistes. Il faut s'attendre au pire, disent-ils. De Ouagadougou, le reportage de Henry Wilkins. Le récit est signé Jacques Aristide.
2021 marque la 9e année du conflit en cours dans la région du Sahel en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la situation n'a fait qu'empirer. Une attaque perpétrée par des djihadistes contre un camp militaire dans le nord du Burkina a tué près de 50 gendarmes en novembre dernier. Le nombre de morts dans les affrontements entre les troupes gouvernementales et les hommes armés liés au groupe État islamique, à Al-Qaïda et à des gangs criminels a accru de 18% depuis l'année dernière, selon les données de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. L'impact humanitaire a été énorme, avec près de 3,4 millions de personnes déplacées, d'après l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Il y a environ 3 mois, Amadou Agli a fui le nord du Burkina après des attaques terroristes menées contre des villages voisins.
Nous vivons des moments très difficiles et je lance un appel à tout le monde, aux ONG, aux gouvernements du monde entier qui peuvent nous aider. Il y a une crise alimentaire, une crise du logement ici et les enfants ne peuvent pas aller à l'école.
L'année a également vu un changement dans la structure militaire de la région, explique Paul Méli, analyste au sein du groupe de réflexion londonien Chatham House.
C'est le début du processus d'évolution vers un nouveau modèle de déploiement français avec les armées du G5 Sahel, désormais beaucoup plus en première ligne, si vous voulez, et avec les Français plus dans un rôle de renfort et de force spéciale, de soutien aérien et de renseignement.
Paris, qui disposait de 5000 soldats soutenant les forces de sécurité du Sahel au début de l'année 2021, va réduire ce nombre à 3000 d'ici début 2022. L'escalade de l'insécurité a également plongé les gouvernements du Sahel dans la tourmente politique. Le Mali a été le théâtre d'un coup d'État mené par le chef militaire Assimi Goïta en mai dernier. La CDAO, le bloc ouest africain, de même que la France, a fait pression sur le colonel Goïta pour que des élections démocratiques soient tenues en 2022. Au Burkina Faso, les manifestations en novembre dernier contre la gestion de la sécurité par le gouvernement ont contraint Ouagadougou à remanier la direction militaire et le cabinet. Andrew Leibovitch est du Conseil européen des relations étrangères.
Ce qui préoccupe les gens, c'est l'insécurité persistante et l'état actuel des forces de sécurité. Donc si cela ne s'améliore pas, alors non, le changement de gouvernement ne suffira certainement pas à apaiser l'opposition.
Pendant ce temps, au Niger, l'émergence de groupes d'autodéfense pour combler le vide sécuritaire pourrait jouer un rôle prépondérant en 2022, selon le professeur Philippe Fraud de l'Université l'Université d'Ottawa. Dans d'autres pays du Sahel, de tels groupes ont été utilisés pour aider les militaires, mais ont également été accusés de violations des droits humains.
Nous avons vu cela récemment dans le sud-ouest du Niger, une sorte de violence communautaire qui monte en flèche et qui est largement incitée par des groupes armés non étatiques. Nous le voyons aussi au Burkina Faso où l'État s'appuie en fait sur des groupes armés comme ceci.
Après une année 2021 difficile, le conflit qui ravage le Sahel n'est pas près de se terminer.
Parlez de VOA Afrique à vos amis. VOA Afrique au Mali, c'est 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 FM Tombouctou.
Au Bénin, l'année 2021 a été marquée par le vote d'un certain nombre de lois qui ont pour but d'aider à la protection des femmes. Pour le gouvernement, il faut procéder au renforcement de l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre certaines déviances. C'est ainsi qu'est né le projet de loi pour la répression des infractions commises sur des bases sexuelles et pour la protection de la femme. Retour sur ces différentes lois avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le gouvernement béninois a introduit au Parlement plusieurs projets de loi sur la femme en raison de la persistance des situations de violence physique et morale exercées sur la femme béninoise avec son lot de conséquences.
Le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'engagement d'œuvrer à une aube nouvelle pour la femme au Bénin.
Des modifications ont été apportées au code pénal, au code de procédure pénale, à la loi sur l'embauche et au code des personnes et de la famille. Le gouvernement a également décidé de restructurer l'Institut national de la femme afin qu'il soit à même de se porter partie civile dans les affaires de violence exercées sur la femme. Au Parlement, le vote de ces lois a suscité de nombreuses interrogations.
Lorsqu'on est père de fille, on craint. Il a oublié aussi de dire lorsqu'on est père d'enfant. Parce que nous qui avions des garçons dans la rue, bonjour demoiselle, ça peut nous amener aussi des dossiers judiciaires à la maison.
Quand on dit harcèlement tout court comme ça, c'est vague, monsieur le président. Il faut qu'on encadre un peu ça. Sinon, nous risquons de créer encore des problèmes beaucoup plus qu'on en résolve. Nos filles auront des difficultés. Nos garçons auront des difficultés. Quand tu vas poursuivre une fille, un peu, va dire, ah, il est en train de me harceler.
Ne regardez pas ce qui se passe à Cotonou, à Porto Novo, non. Allez dans nos contrées où nous sommes élus.
Si la loi sur la répression des infractions commises en raison du sexe a été votée finalement à l'unanimité des députés présents, celle sur l'avortement a déchaîné les passions.
L'avortement n'est pas une bonne chose. Une femme digne de valeur n'a pas droit de faire l'avortement.
Nous sommes dans une société où la pratique en faveur de l'avortement est tellement avancée, mais comment dire, l'hypocrisie collective amène à ne pas l'accepter.
Dans le contexte béninois actuel, je me dis, au-delà d'une volonté de donner la liberté à tout un chacun de faire usage de son corps, il faut retourner justement à nos valeurs endogènes, à notre culture, à notre environnement.
Pour le ministre de la Santé, il s'agit de sécuriser une pratique qui se fait en cachette avec un taux de mortalité assez affolant. Benjamin Rumpati.
Le projet de loi qui a été introduit a prévu notamment les cas où, dans une situation de détresse matérielle, financière, morale ou éducationnelle, la femme est confrontée à la complexité d'une équation, celle de garder une grossesse.
En plus du droit qui est donné à la femme de pouvoir donner son nom à ses enfants, le gouvernement a décidé de donner à l'Institut de la femme le pouvoir de défendre convenablement les femmes. Le président Talon se justifie.
L'Institut a automatiquement la qualité de partie civile. Quelle que soit la personne, la victime, quel que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement partie civile, quand bien même la victime n'est pas plaignante. Si le fait est dénoncé et que le parquet engage l'action, l'Institut se met automatiquement partie civile. C'est une innovation extraordinaire parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques.
La présidente de l'Institut national de la femme est du même avis et appelle les victimes à briser le silence afin de permettre à l'État de leur offrir justice et réparation.
Je sais que beaucoup de nos compatriotes attendent ce moment depuis. Tant les enjeux de défense et de promotion de la cause de la femme béninoise sont énormes, temps, l'actualité nous donne à voir assez de preuves qu'il use d'agir et d'agir vite dans le champ d'action qui est celui de l'Institut national de la femme. Les Béninois, dans leur grande majorité, sont conscients de la nécessité d'agir et d'agir sans plus tarder.
Il faut préciser qu'il y a eu également l'obligation faite aux hommes de signer le certificat de paternité pour la sécurité de l'enfant à naître. Les relations intimes entre professeurs et élèves sont proscrites. Le mariage forcé passible de lourdes sanctions. Le gouvernement fait de l'épanouissement de la femme et la promotion du genre une mission d'honneur. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Jusqu'à présent, les immigrés sans papiers vivant en Afrique du Sud ont du mal à se faire immuniser contre le Covid-19. Le gouvernement, avec l'aide des organisations à but non lucratif, a commencé à vacciner des milliers de personnes qui préfèrent vivre hors réseau. Le reportage de Zahir Kassim de VOA à Johannesburg, le récit de Gini Niwakapumbu Villa.
À l'occasion des fêtes de fin d'année, les sans-papiers d'Afrique du Sud reçoivent le cadeau d'un vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement, appuyé par les groupes à but non lucratif, offre le vaccin aux quelques 2 millions de sans-papiers du pays dans le but d'enrayer la propagation du coronavirus. Jusqu'à présent, beaucoup ne pouvaient pas se faire vacciner par manque de pièces d'identité requises, mais cela a changé après un effort de lobbying des groupes à but non lucratif. Désormais, les vaccins sont administrés aux sans-papiers dans des lieux tels que ce refuge de Johannesburg. Julie Machin est une bénévole de l'association Noah Ken. Le groupe est responsable de l'organisation de la campagne de vaccination d'aujourd'hui.
Certaines de nos personnes ne sont pas nécessairement enregistrées. Elles peuvent avoir des papiers d'asile ou autres. Et il est évidemment difficile d'accéder aux vaccinations si vous n'êtes pas sud-africain. Et il n'y a pas mal d'obstacles à cela. Et donc, nous voulions simplement créer une opportunité pour que les gens puissent facilement avoir accès à la vaccination.
Dans cette file d'attente, beaucoup de ceux qui reçoivent leur premier vaccin ne sont pas sud-africains, notamment Raphaël Doubé, 42 ans, qui se félicite de l'opportunité.
Vous savez quoi ? Nous, à la fin du temps, nous devons être vaccinés.
Les personnes vivant en Afrique du Sud doivent être enregistrées dans le système électronique de données sur les vaccinations pour recevoir un vaccin. Ce système exige un numéro individuel d'identification afin que le gouvernement puisse savoir qui a été vacciné, quel vaccin a été reçu et assurer le suivi de la personne vaccinée si nécessaire. Ce nouveau programme, mis en place uniquement dans certains sites, permet aux sans-papiers de recevoir un identifiant unique pour être vacciné et suivi uniquement à des fins sanitaires. Selon le groupe d'aide Médecins sans frontières, la réponse a été positive jusqu'à présent. Le docteur Vinayak Bardwaj, qui travaille avec l'organisation à but non lucratif, estime que les autorités doivent renforcer la confiance avant que le programme puisse être déployé à grande échelle.
I think a lot of migrants are afraid of being exposed. They're afraid that if they go out to go.
Je pense que beaucoup de migrants ont peur d'être exposés. Ils ont peur que s'ils sortent pour aller se faire vacciner, ils puissent faire l'objet de mesures de répression. Ils craignent également que leurs informations soient partagées avec le ministère de l'Intérieur. Donc, dans la mesure du possible, nous espérons que le ministère de la Santé pourra mettre en place un processus qui, bien sûr, atteint les objectifs légitimes de santé publique qu'il tente de poursuivre, mais qui protège également l'anonymat des migrants.
Selon les agences de l'ONU, on estime à 1 milliard le nombre de personnes qui se déplacent dans le monde en raison des conflits, de la violence et du changement climatique. Les responsables affirment que les gouvernements et les groupes d'aide doivent travailler ensemble pour s'assurer que tout le monde a accès au vaccin afin de contribuer à mettre un terme à la pandémie.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle Morissin, Georges et Léonard Sagnot. Eric Manilakidza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.
Oh,